et globalisation. Donc pour simplifier, on peut avoir deux manières de définir la pauvreté. C'est soit mesurer la pauvreté comme étant des écarts de niveau de vie moyen entre pays. Donc dans le monde, vous avez des pays pauvres et des pays riches. Cette pauvreté étant mesurée par un écart moyen de revenus par habitant. Ok ? Ça, c'est la première manière de mesurer la pauvreté, de manière simple. Mais finalement, la pauvreté, c'est aussi, ça touche des individus, c'est humain. Et donc, la pauvreté, avant tout, ça devrait se mesurer au niveau individuel. Donc, on devrait être en mesure de compter le nombre, d'évaluer le nombre de personnes pauvres dans le monde ou dans un pays, etc. Donc, ça pose des questions de mesure dont je vous parlerai après. Et donc, en fait, moi, ce que je vais faire, ce que je vais vous présenter, c'est que l'essentiel des travaux sur le liaison entre pauvreté et globalisation se sont faits principalement sur cette flèche-là, en fait, hein, entre la mondialisation et la globalisation, que je définirai après, et les écarts de niveau de vie entre pays. Donc, en fait, ça revient, c'est une problématique de croissance. En quoi l'ouverture commerciale, la mondialisation, permet à des pays d'émerger et d'avoir des taux de croissance importants? Ça, c'est une première manière d'approcher cette question-là, et ça a suscité, ça a des fondements théoriques, donc je vous présenterai les fondements théoriques de cette flèche-là, et les résultats empiriques des tentatives d'estimation de l'intensité de cette flèche-là. Hein, est-ce que cette flèche existe? Est-ce qu'on peut définir une relation de causalité entre globalisation et croissance des pays? Et la deuxième flèche dont on va parler en deuxième partie, ça sera l'impact de la globalisation mondiale sur les niveaux de vie des individus. Je vais parler de cette flèche après, pour ne pas trop vous embrouiller. Donc voici le plan de mon exposé. Tout d'abord, je crois qu'il est important de savoir de quoi on parle. D'accord ? Donc, dans un premier temps, je vous ferai un aperçu de l'évolution des écarts de PIB moyen entre pays depuis 30 ans. Ensuite, on s'intéressera à la pauvreté au niveau des populations des individus. Donc là, ça pose des questions de mesure. Qu'est-ce qu'être pauvre? Qu'est-ce que ça veut dire, hein, en termes conceptuels, en termes de mesure? Quelles statistiques on a besoin de collecter pour mesurer la pauvreté? Et je vous présenterai des résultats d'un constat empirique sur l'évolution de la pauvreté dans le monde. Ensuite, puisqu'on étudie pauvreté et globalisation, on précisera qu'est-ce qu'on entend par globalisation, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. Voilà. Et comme je vous le disais, donc la première flèche qu'on étudiera, donc c'est globalisation et écart de niveau de vie entre pays. Et la deuxième flèche, c'est plutôt de voir l'impact de la globalisation sur la pauvreté à l'intérieur des pays, à l'intérieur d'une nation. Ok ? Et enfin, je conclurai, évidemment. Donc ça, c'est un graphique très simple sur... Ça vous paraît compliqué? Bon, on va le lire ensemble, alors. Donc,
si vous leur expliquez, ce sera pas compliqué.
Donc là, vous avez les années, d'accord? De 1975 à 2003. Ok? Et vous avez différentes courbes qui représentent en fait le niveau de revenu moyen par habitant de différentes catégories de pays. Ces catégories de pays sont classées par leur niveau de revenu. Okay. C'est un classement Banque mondiale. Donc vous avez là, c'est le PIB par tête, en parité de pouvoir d'achat, en dollars constants 2000. Je ne sais pas si vous avez...
On a vu ça.
Ouais ? Ok, super. Je vais pouvoir aller. Donc, c'est pas compliqué. Donc... Qu'est-ce qu'on voit ? Vous voyez quand... Qu'est-ce que vous observez ? Vous voyez quand, dans les années 70, vous aviez un rapport, en gros, là, de 1 à 30, d'accord ? Entre les pays les plus pauvres, qui sont les carrés violets, qui sont les pays à bas revenus. Donc là, c'est une moyenne des pays. Hein, avec les pays à haut revenus. Okay. Et là, vous observez qu'en l'espace de 30 ans, les pays à haut revenus, qu'ils soient de l'OCDE ou non, donc c'est les États-Unis, le Japon, l'Europe, principalement, ont doublé leur niveau de vie moyen en 30 ans, avec cette mesure-là, de niveau de vie. Okay. Tandis que les autres pays, les pays les plus pauvres, ont pratiquement stagné en moyenne. Donc, il y a eu un accroissement des inégalités de niveau de vie moyen dans le monde, okay, en l'espace de 30 ans. Les pays à revenus intermédiaires ont connu une augmentation, mais pas très importante, et c'est notamment lié au fait, là vous avez une cloche, une baisse là, qui est liée à l'ouverture des pays soviétiques, ex-soviétiques. Là j'ai fait exactement le même graphique, mais j'ai divisé le monde, enfin le... Les courbes ne représentent pas les pays par niveau moyen de revenus, mais selon les continents. Ok ? À l'exception que là, cette courbe, là, c'est la même que précédemment, c'est les revenus, c'est l'évolution du PIB des pays de l'OCDE, hein, des pays de la France notamment. Alors là, ne vous fiez pas à cette courbe-là, parce qu'en fait, on n'avait pas de données. Hein, donc là, c'est les pays de l'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Qu'est-ce qu'on observe ? Donc on observe en Afrique subsaharienne, on voit une stagnation, voire une baisse. En Asie du Sud, qui est essentiellement constituée des pays autour de l'Inde, on voit une augmentation légère, mais qui ne permet aucunement de rattraper le niveau des pays très riches. Okay ? Et là, on voit l'augmentation la plus rapide, c'est en Asie de l'Est et du Pacifique. Donc c'est la Chine, hein, qui voit son niveau de vie augmenter considérablement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que... En l'espace de ces 30 ans, on observe une divergence massive des revenus absolus et relatifs entre les pays. D'accord ? Il n'y a pas de rattrapage des pays pauvres, des niveaux de vie des pays pauvres vers les pays, du niveau de vie des pays pauvres par rapport à celui des pays riches. La plupart des pays qui étaient pauvres sont restés pauvres. Et les pays qui étaient déjà riches sont restés riches, mais ils ont vu leur niveau de vie fortement augmenter. Okay. Là, je voudrais. Donc là, je passe au deuxième point. Donc, il s'agit d'avoir l'approche de la pauvreté en se disant que la pauvreté, c'est. On peut se dire que la majorité des pauvres vivent dans des pays pauvres, hein, mais. Mais pas uniquement, et que la pauvreté, c'est quelque chose qui touche chaque individu. Okay ? Donc, on peut dire le premier truc, comment définir la pauvreté ? La première approche simple, c'est la pauvreté fait référence à un état de carence. Donc la pauvreté est le fait d'être, ça c'est une définition des Nations Unies, hein, la pauvreté est le fait d'être privé des moyens matériels permettant de satisfaire un minimum acceptable de besoins, notamment alimentaires. Okay ? Donc être pauvre pour un individu, c'est de ne pas avoir suffisamment de moyens matériels pour subvenir à ses besoins, à des besoins minimaux. Mais vous pouvez vous dire que être pauvre, ce n'est pas uniquement ne pas pouvoir manger. C'est aussi, il y a d'autres dimensions de la pauvreté. Donc la pauvreté, on dit souvent qu'elle est multidimensionnelle. Donc là, je vous présente l'exemple d'une famille africaine qui est composée de 10 membres. Donc souvent, les pauvres sont nombreux. Enfin, c'est bon, c'est... Voilà. Donc, je pourrais faire une conférence que là-dessus, mais... Il y a toute théorie pour essayer de comprendre la rationalité d'avoir beaucoup d'enfants quand on n'a pas les moyens de, soi-disant, de subvenir à leurs besoins. Donc, la famille africaine, on dit qu'elle... elle vit dans une cabane de 2 pièces, qu'elle n'a ni eau ni électricité. Elle se réunit une fois par jour autour d'un plat de riz, donc... L'ensemble de la famille, on peut juger qu'ils ne mangent pas suffisamment à leur faim. Ils ont des conditions de logement indécentes. La mère cultive un petit lopin de terre et vend une fois par semaine ses produits ouvriers au marché de la ville le plus proche, c'est-à-dire à 3 heures de marche de l'endroit où ils vivent. Donc ils ont très peu de moyens de subsistance. Les hommes de la famille sont travailleurs saisonniers agricoles dans les plantations de cacao voisines. D'accord ? Donc ils ont des revenus qui sont aléatoires, qui fluctuent en fonction des saisons de l'année. Aucun des adultes ne sait lire ni écrire. Et sur les 5 enfants, seuls les 2 enfants sont inscrits à l'école primaire. Mais un seul réussira à savoir lire et écrire. Et les filles, par contre, on ne les a pas mis à l'école. Hein, elles aident leur mère au champ et à la maison. Donc c'est vraiment le cas représentatif d'une famille typique, pauvre, où il y a une inégalité entre garçons et filles et où la performance scolaire est assez faible. La situation des gens, elle peut évoluer. Okay ? Donc être pauvre, c'est aussi... c'est aussi subir des chocs, c'est aussi avoir des problèmes, notamment de santé, qui ne permet pas de vous remettre, dont vous ne vous en sortez pas. C'est-à-dire, par exemple, là, durant les mois de pluie, la famille a perdu 2 enfants du fait de la malaria, donc il y a des chocs démographiques importants. Ça explique pourquoi souvent les familles sont nombreuses, parce qu'il y a un taux de mortalité important. Okay ? Et le père est malade, il ne peut plus travailler. Et évidemment, comme il n'y a pas de sécurité sociale, il y a une chute brusque des revenus qui étaient au départ très inférieurs, qui étaient faibles. Souvent, ce qui se passe, c'est que pour faire face à cet aléa, ce choc-là qui est très important, donc notamment pour acheter des médicaments, la famille est obligée de vendre une partie des terres. Donc être pauvre, c'est aussi ne pas avoir, être obligé parfois de se défaire de son facteur de production. Okay. Donc du coup, c'est des comportements qui peuvent paraître irrationnels, mais qui le sont, puisque vu face à l'état d'urgence du père, on se défait des terres qui nous permettaient de vivre avant. Et donc du coup, à l'avenir, nous ne vous permettrons pas de vivre après. Donc là, je vous ai vraiment fait un tableau noir de la situation. C'est que aussi la population pauvre peut subir des chocs macroéconomiques, par exemple des variations du cours des matières premières, notamment du café. Et donc du coup, les parents, les hommes ne peuvent plus travailler à la plantation parce que la plantation n'est plus rentable et donc ils ne peuvent plus travailler. Être pauvre, c'est aussi être en difficulté sociale. Et donc là, j'ai imaginé la sœur qui a un bébé, mais qui n'est pas reconnue par la famille paternelle, et qui, en fait, est partie à la ville pour essayer de subvenir à ses besoins, et toute la famille n'est plus du tout en contact avec elle, et à la charge de son enfant. Donc tout ça pour vous dire que la pauvreté c'est concret et ça touche et c'est multidimensionnel. D'accord ? Alors, est-ce que la pauvreté est-il un concept absolu ou relatif ? Est-ce qu'on peut juger, est-ce qu'on peut définir une norme nationale ou internationale qui permettrait de dire cette personne, elle est pauvre, cette personne n'est pas pauvre ? Première question, et est-ce que la pauvreté n'est pas aussi un concept relatif ? D'accord ? Parce que ce tableau, la catastrophe que je vous ai fait de la famille africaine, ce genre de famille n'existe pas en France, mais est-ce que pour autant en France il n'y a pas de pauvres ? Ok ? Il y a des pauvres en France. Attendez, j'ai plus le jeu. Donc dans les pays riches, il y a des pauvres, mais c'est souvent un concept, la pauvreté c'est aussi un concept relatif, c'est-à-dire qu'on se sent pauvre parce qu'on a des revenus inférieurs, des moyens d'existence relativement à des personnes plus riches, inférieurs, d'accord ? Il en demeure pas moins que pour des standards de minimum vitaux, on peut ne pas être considéré comme pauvre, ok ? Donc là, je vous ai fait le portrait toujours de deux familles qui vivent au Brésil, à Sao Paulo. Et là, c'est une famille pauvre, mais relativement à la famille africaine, elle est déjà riche. Parce qu'ils savent lire, parce qu'ils ont du travail, parce qu'ils ont un logement, ils ont parfois de l'électricité. Les enfants vont à l'école. Donc c'est une situation moins pire que la famille africaine, mais quand même une situation d'instabilité et de difficulté. Et là, vous avez la situation d'une famille brésilienne, toujours, très riche, avec des standards européens, voire plus, de niveau de vie. C'est-à-dire la dame ne travaille pas, elle fait des collections, les enfants vont être scolarisés aux États-Unis ou à Paris, la famille voyage souvent, etc. D'accord ? Donc, cette famille, relativement à la famille africaine, va se sentir privilégiée, mais relativement à son voisin brésilien, va se sentir très pauvre. Hein ? Donc, la pauvreté, c'est aussi relatif. Et donc, juger de cette norme pour discuter de la pauvreté, c'est en fait, c'est quelque chose de normatif, voire de subjectif, et qui dépend, et qui est lié à l'historique, à l'histoire de chaque société. Ok ? Donc c'est une question de normes politiques nationales, de juger qui est pauvre et qui n'est pas pauvre. Donc là j'ai repris une définition de Ravaillant, qui est un chercheur de la Banque mondiale qui travaille beaucoup sur ces questions-là. On peut dire que la pauvreté existe dans une société donnée lorsque le bien-être de plusieurs personnes n'atteint pas un niveau considéré comme un minimum raisonnable selon les critères de cette même société. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette définition quand on veut savoir au niveau mondial comment a évolué la pauvreté ? Donc en résumé, mesurer la pauvreté, c'est complexe et ça soulève des questions alors, au niveau d'un pays et a fortiori au niveau mondial. Soulève des questions d'identification, hein, comment mesurer le bien-être, comme je l'ai dit. Et il faut déterminer un seuil à quel niveau on considère qu'une personne est pauvre. Et ça soulève des questions statistiques. Comment synthétiser toutes les informations qu'on a sur les indicateurs quand je vous ai montré que la pauvreté est multidimensionnelle? Est-ce qu'on est capable d'avoir un indicateur synthétique? Est-ce que certains indicateurs ne privilégient pas plus une dimension matérielle que d'autres? Alors, je ne sais pas si en cours, vous avez parlé des indicateurs de développement humain, des Nations Unies, etc. Donc, toute la réflexion, notamment des Nations Unies pour des indicateurs de développement humain, c'est d'essayer de synthétiser cette multidimension de la pauvreté. Bon, moi, je ne suis pas très fanat des indicateurs synthétiques. Je préfère qu'on ait une image avec plusieurs indicateurs qu'on n'agrège pas. Bon, ça, c'est un problème. Il en demeure pas moins que toutes ces questions de statistiques, ça peut être un débat technique entre statisticiens. Mais en fait, souvent, le débat politique des 15 dernières années, voire des 20 dernières années, sur est-ce que la globalisation a amélioré la situation de beaucoup de gens dans le monde ou pas, souvent se fondait sur des choix de statistiques. Hein, la statistique est politique. Okay ? Mais le statisticien n'est pas forcément un politique. Il y a souvent des choix arbitraires, hein, des mesures, de mesures, et qui peuvent orienter, qui peuvent influencer. Donc tout ça pour vous dire que le travail de chercheur dans l'économie en statistique, c'est d'essayer de se rendre compte, d'avoir des appréciations les plus objectives, ou d'être tout à fait conscient des limites de certaines mesures, hein, et des erreurs, des marges d'erreur qu'on peut avoir pour apprécier notamment la pauvreté. Donc moi, je vais vous présenter en fait l'approche de la Banque mondiale pour faire un diagnostic sur la pauvreté monétaire dans le monde. Donc l'approche de la Banque mondiale, enfin, dans les tableaux que je vais vous montrer, je ne me concentre que sur les indicateurs monétaires. Là, on n'a pas le temps de voir les autres indicateurs, mais sachez que les autres indicateurs vont dans le sens... Enfin non, bon, je n'en parle pas. Là, je fais le choix, tout en vous ayant montré que ça a ses limites, d'avoir qu'une seule dimension. On va faire le choix de ne présenter que la pauvreté monétaire en termes donc de niveau de consommation ou de revenus des individus. Pourquoi je fais ce choix-là? Parce que tous les travaux sur l'impact de la globalisation sur la pauvreté ont essentiellement travaillé soit sur les niveaux de PIB moyens par pays, soit sur ces indicateurs de niveau de vie monétaire des ménages, des individus. Ok, donc ça demande d'utiliser beaucoup de données. Et donc dorénavant, il y a une multiplication des enquêtes auprès des ménages. Donc c'est des enquêtes qu'on fait, qui sont représentatives au niveau national, qu'on fait à plusieurs années. Jusqu'à une page qu'aux années 80, en fait, dans la plupart des pays en développement, à l'exception du Brésil et de l'Inde, on n'avait aucune idée des niveaux de vie des individus parce que les enquêtes ne se faisaient pas. Les enquêtes, c'était plutôt des pratiques des pays riches. Depuis les années 80, il y a une multiplication des enquêtes. C'est pour ça qu'on peut vous présenter des chiffres. Donc là, je vous présentais des tableaux qui ont mobilisé 457 enquêtes représentant 97 pays, soit 93% de la population mondiale. 93% de la population des pays à bas revenus et à revenus intermédiaires. Alors, vous avez certainement entendu parler du seuil de pauvreté, d'une norme internationale, qui est le 1 dollar ou le 2 dollars en parité de pouvoir d'achat. C'est pas exactement 1 dollar, c'est 1,08 dollar en parité de pouvoir d'achat prix 93. Donc c'est des seuils, c'est un seuil qui a été calculé, enfin qui est représentatif de la plupart des seuils des pays les plus pauvres. Et les seuils au niveau national sont souvent un seuil calorique. C'est quand on juge que pour bien manger, il faut 2200 calories par individu, et on valorise ces 2200 calories, auxquelles on ajoute une proportion de consommation non alimentaire, puisqu'il faut bien s'habiller et vivre et se loger. Donc c'est une moyenne de ces seuils nationaux. Je sais que ça fait beaucoup débat, cette mesure. Notamment, elle fait débat parce que est-ce qu'elle prend correctement en compte les écarts de prix entre pays ? Hein, il est possible. Souvent, la pauvreté peut être surestimée parce qu'on ne tient pas compte du fait que quand vous vivez en Inde ou en Afrique, aller chez le coiffeur ou avoir un service ou avoir une bonne, ça coûte moins cher que chez nous. D'accord ? Les prix des biens, ce qu'on dit en économie, c'est que les prix des biens non échangeables sont inférieurs dans les pays pauvres que dans les pays riches. Bon. Il y a un problème d'hétérogénéité des enquêtes. Certaines enquêtes mesurent les revenus et d'autres la consommation. Elles ne prennent pas en compte tout l'ensemble des revenus. Bon. Et alors, le gros défaut de ces chiffres-là sur la pauvreté mondiale, c'est que ça ne tient pas compte des inégalités au sein des ménages. On suppose qu'au sein de chaque ménage, la distribution des revenus, elle est égalitaire. Or, vous pouvez tout à fait vous retrouver dans une société où les femmes et les enfants mangent moins, ont moins accès à à la voiture, etc., que les hommes notamment. Donc, ce que je vous présente là, si on ne tient pas compte de ces de la pauvreté ou des écarts de niveau de vie intra-ménage. Donc quelques chiffres. Alors je ne sais pas si vous savez, mais alors $1 c'est la pauvreté vraiment extrême, quoi. C'est vraiment ne pas avoir suffisamment de quoi se nourrir. $2 donc c'est le double, c'est la pauvreté tout court. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que en 2001, donc il y a 1,1 milliard de pauvres dans le monde, soit 400 millions de pauvres en moins par rapport à 1980. Donc dans le monde, on observe une diminution du nombre de pauvres. À $2, la diminution... Non, il n'y a pas de diminution, il y a augmentation du nombre de pauvres. Et en fait, cette évolution à $1, elle s'explique essentiellement par la baisse du nombre de pauvres en Chine, alors que dans le reste du monde, dans les autres pays, on a une augmentation du nombre de pauvres. Donc là, vous avez un tableau, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Donc notamment du fait de la croissance démographique. Alors la Chine, elle est là. Donc la Chine, en Chine, on observe une baisse spectaculaire du nombre de pauvres. On passe de 634 millions à 211 millions. D'accord, à l'espace de 20 ans. Donc, il y a 400 millions de gens qui sont sortis de la pauvreté. Donc c'est énorme. Par contre, ailleurs, en Amérique latine, par exemple, on a une augmentation. En Inde, on a une baisse une baisse, on peut dire, mais bon, c'est pas très assez faible. Et en Afrique subsaharienne, on a un doublement du nombre de pauvres, une augmentation. Donc là, c'est la pauvreté extrême. Un concept qui est complémentaire à compter les pauvres, c'est le taux de pauvreté. Hein, c'est le rapport du nombre de pauvres sur la population totale. Et là, on observe qu'il y a une baisse du taux de pauvreté dans le monde, que ce soit à $1 ou $2. Et donc, on observe une baisse des taux de pauvreté dans tous les continents, à l'exception de l'Afrique. Comme vous pouvez le voir, donc là, on a diminué de moitié le taux de pauvreté, pardon. En 81, c'était estimé à 40% de gens dans le monde étaient considérés comme pauvres. C'est énorme, je ne sais pas si vous réalisez. Et on tombe à 20%, on tomberait à 20% en 2001. Par contre, en $2, l'évolution est moins nette. Hein, on passe de 67% à 53%. Donc il n'y a que 10 points, 13 points de points de baisse. Baisse qui s'explique. L'essentiel de cette baisse s'explique pratiquement du fait de la Chine. Donc la Chine qui est un pays très peuplé et qui a connu une augmentation du niveau de vie. En fait, dans l'approche de la Banque mondiale, ils ont aussi rajouté une approche relative. Mais bon, j'ai pas le temps, je pense quelle heure il est là.
Si on continue.
Oui, mais j'ai beaucoup de choses à voir après.
Ça fait 8 minutes de fond, c'est jusqu'à 15h15, c'est un problème.
Ouais, je sais pas si. Donc jusqu'à présent, les tableaux que je vous ai montrés, c'était une mesure absolue de la pauvreté. Quid de la pauvreté dans les pays riches, qui est souvent mesurée comme étant une pauvreté relative. En France, je ne sais pas si vous savez quel est le critère pour définir qui est pauvre ou pas. Vous savez ou pas ? Voilà, c'est la moitié du revenu médian. La moitié ou
100%? 60% du revenu médian.
J'ai pas entendu. C'est 60% du revenu médian. C'est avoir moins de 60% ou 50%. Bon. Dans la plupart des pays riches, c'est ça. Donc là, dans ce tableau, on a ajouté à cette population pauvre de manière absolue, c'est-à-dire qui est essentiellement qui vit essentiellement dans les pays du Sud. Hein. C'est en Asie de l'Est, en Asie du Sud et en Afrique. On a ajouté les pauvres des pays riches, on va dire, mais aussi d'Amérique latine. Donc, par exemple, les taux de pauvreté en Amérique latine sont importants et n'ont pratiquement pas bougé. Et donc, en termes de nombre, on rajoute 400 millions de pauvres, en fait. Dans le tableau précédent, vous aviez 1 milliard 400 000. Vous avez 1 milliard 400 000 à 1 dollar, 1 milliard 500 000. Là, vous avez 1 milliard 800 000. Et on observe une baisse quand même. Une baisse, à l'exception toujours de l'Afrique. Donc là, c'est la même chose. Donc là, c'est la même chose. Là, c'est la répartition par continent hein, du nombre de pauvres. Des graphiques que vous pourrez exploiter. Donc, qu'est-ce qu'on dit là? Est-ce que je peux en déduire Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans les 30, sur les 20 dernières années, pardon, de 80 à 2000, on a observé une baisse de la pauvreté dans le monde. Est-ce que cette pauvreté est associée à la globalisation? J'en sais rien encore. Ok? Mais là, bon, je vous ai présenté des chiffres avec leurs imperfections, mais qui sont dorénavant validés et reconnus. Donc, vous avez une baisse du nombre de pauvres dans le monde, mais avec une divergence de niveau de vie moyen entre pays. D'accord ? Il faut toujours avoir l'idée de ces deux notions. Alors, venons-en à définir qu'est-ce que c'est la globalisation. Donc, globalisation, c'est un terme assez vague, c'est un concept assez large hein, qui est utilisé par beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Donc, c'est un concept assez large qui désigne différents phénomènes qui reflètent une augmentation des interdépendances économiques entre pays. Donc, la globalisation, c'est l'augmentation des échanges, des mouvements, des interdépendances entre les pays. Interdépendance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire augmentation des échanges commerciaux, qui sont certainement liés, mais pas forcément, à une réduction des politiques protectionnistes. Hein. Donc les 20 ou 30 dernières années ont été des années de libéralisation de la levée des barrières aux échanges des marchandises. Ok ? Mais ça peut être aussi une réduction des coûts de transport entre différents endroits. Ça peut être aussi, on peut définir la globalisation comme une augmentation des mouvements internationaux de capitaux, notamment les investissements directs étrangers. C'est aussi une augmentation des flux de gens entre pays, des flux migratoires. C'est aussi une délocalisation des activités, hein, des mouvements, des entreprises qui vont se déplacer ailleurs. Et c'est aussi une plus grande exposition aux variations des taux de change. Donc là, vous voyez que la globalisation recoupe beaucoup de choses. Et que c'est peut-être pas si évident de faire la part, d'expliquer, enfin d'isoler chaque phénomène. Et de voir lequel de ces phénomènes a le plus d'importance sur les évolutions de niveau de vie et sur la pauvreté. Okay. L'essentiel des travaux de chercheurs ont essentiellement porté sur l'ouverture commerciale, tant mesurée par des politiques, l'évolution des politiques tarifaires, que l'évolution des échanges commerciaux. Donc, l'essentiel des travaux que je vais vous montrer, des résultats, sont essentiellement basés sur l'analyse de l'impact de la réduction de l'augmentation des échanges de biens et de services entre pays. Bon, là encore une fois, de quoi parle-t-on? Là je vous ai reproduit un graphique sur quoi déjà? Ouais, sur sur l'évolution de la part des exportations et des importations sur le PIB. Donc qui est l'indicateur standard d'ouverture commerciale. Donc là vous voyez que ça, que effectivement ça a explosé. On est passé de 40 à, il y a eu un doublement, d'accord, des échanges commerciaux entre 1950 et 2000. Des échanges commerciaux dans le monde entier. Là, ici, c'est un graphique sur les échanges commerciaux des États-Unis. Et là, c'est sur une plus longue échelle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas cette augmentation des interrelations entre pays, elle n'est pas nouvelle. On a déjà connu ça dans le monde. C'était à la fin du 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a déjà eu un phénomène de mondialisation. Ça a déjà eu lieu. Donc des chercheurs s'interrogent en quoi ce qu'on vit actuellement diffère de ce qu'on a vécu au 19e siècle. Et là, on voit un peu, on commence à voir. Là, vous voyez qu'au 19e siècle, au début du siècle, la part des produits, des exportations sur le PIB des États-Unis, il était tout aussi important que ce qu'on vit actuellement, là. Ce qui change, c'est la part des exportations de marchandises sur la production totale. Donc vous avez une explosion des exportations. D'accord ? Donc, a priori, le volume des échanges est plus conséquent que ce qu'on avait observé il y a un siècle. Alors, certainement que cette... je ne sais pas encore, mais... très probablement, cette augmentation des volumes d'échanges est liée à la suppression des barrières tarifaires. Là, vous avez un tableau sur les taux de les droits de douane moyens sur les produits importés manufacturiers au 19e siècle jusqu'à maintenant. Et donc là, vous voyez qu'il y a une baisse assez importante. Donc en France, on passe de 15%, 20%. Alors là, il y a eu une période de fermeture après la crise des années 30. Et on passe maintenant à 3%. Pareil pour les États-Unis. C'est considérable, quoi, la baisse des barrières aux échanges. C'est pareil aussi pour des pays émergents. Vous voyez là que, par exemple, l'Argentine passe de 30% à 11%, ça c'est les droits de douane, qui est concomitant d'une augmentation du taux d'ouverture, de 15% à 33%. Et ça, c'est partout pareil. La Chine, par exemple, 40% à 12%, d'accord, une réduction de plus de moitié, avec, pareil, une explosion des échanges, ça passe de 28% à 50% des échanges sur le PIB. C'est énorme. Et la Malaisie, pareil, enfin la Malaisie, elle exporte plus qu'elle ne produit nationalement. Ok. Donc effectivement, il y a globalisation, il y a mondialisation, il y a accélération des échanges de marchandises et de services aussi, et qui est certainement lié à la suppression des barrières tarifaires qui sont dues aux accords à l'OMC, aux accords internationaux, etc. Qui sont aussi dus à des accords régionaux. Qu'en est-il des autres dimensions qui peuvent permettre de définir la globalisation ? Donc ici, vous avez les évolutions des mouvements de capitaux, des mouvements financiers. Et là, pareil, vous observez une accélération qui est peut-être plus, qui a essentiellement lieu à partir des années 90. C'est assez récent. En termes migratoires, alors ça, c'est la grosse différence avec ce qui s'est passé au début du siècle. On pourrait croire que, alors, les flux migratoires ont augmenté. Mais la population ont effectivement augmenté, mais à la différence de ce qui s'est passé lors de la première mondialisation, on va dire, c'est les mouvements de personnes sont j'ai oublié, zut. non, j'ai oublié le ratio. J'ai des notes. Ouais, donc en 1913, on estimait que la population les immigrés représentaient 10% de la population mondiale. C'est-à-dire 10% de la population mondiale s'était déplacée. C'est essentiellement des gens de l'Europe, du Nord ou du Sud, qui sont allés vers les États-Unis. Ici, actuellement, chez nous, enfin, dans la période qu'on vit là, ce chiffre est trois fois moindre. Donc la grosse différence avec ce qui s'est passé au début du siècle, c'est qu'on a moins, il y a barrière à la mobilité des personnes, et certainement échange des quantités beaucoup plus fortes. Okay. Ça pourrait expliquer, en partie, parce que au début du siècle, on a observé une convergence des écarts de PIB entre pays, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Ça explique essentiellement par ce mouvement de population. Mouvement de population qui est actuellement contraint par des politiques anti-migratoires. Alors, comme je vous le disais, donc, la hausse des échanges internationaux, mais c'est des échanges qui sont essentiellement Est-Ouest. Et il y a même des chercheurs, notamment qui s'appelle Diamond, qui a fait tout un boucan sur pourquoi le développement se diffuse d'Est en Ouest ou pourquoi les échanges sont essentiellement d'Est en Ouest. Bon, c'est pas le sujet là. Donc c'est essentiellement des échanges entre pays de l'OCDE. Donc une des caractéristiques importantes de cette mondialisation, c'est que les échanges se font des produits entre pays de même niveau de niveau de vie. Avec des produits qui paraissent identiques, mais qui... enfin voilà. Et l'autre caractéristique, c'est effectivement l'arrivée de l'Asie, hein, comme pays exportateur et importateur. Ça, je l'ai déjà dit. Et donc là, encore une fois, dans cette mondialisation, certainement qu'il y a un continent qui n'est pas... il y a toujours un continent qui est oublié, qui ne participerait pas à cette mondialisation. Il n'en demeure pas moins que les pays africains ont diminué leurs droits de douane, ont de taux d'ouverture assez importants, mais relativement à l'augmentation des flux des échanges ou des capitaux, l'Afrique reste très 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 marginale. Donc on pourrait se dire qu'une des raisons de la pauvreté du continent africain serait son absence de participation à la mondialisation. C'est une thèse. Est-ce qu'elle est validée? On va voir ça. Ça va? Vous tenez encore? Parce que... Ouais? Là, normalement, j'aurais fini, hein, c'est ça? Ouais. Il est moins le quart, là, ça, j'ai une demi-heure.
Voilà, mais je veux dire, le débat compris, ce serait bien si
on finit
à
15h15. Donc j'ai une demi-heure. Ouais. Donc je vous demande une attention encore d'une demi-heure.
Débat compris, madame.
Débat compris ?
Oui.
Oh là. Ok. Donc on va aller vite. On va aller vite. Donc là, je reviens. J'essaye d'essayer de comprendre le lien entre cette globalisation que je viens de définir et les écarts de niveau de vie entre pays. Donc, théoriquement, il y a pas mal de présupposés qui permettraient de se dire que l'ouverture permettrait une croissance des pays. Le premier fait qui vient immédiatement à l'esprit, si on a à l'esprit les modèles standards de croissance, souvent, si on n'a pas de croissance selon le modèle classique de croissance, c'est qu'on manque d'épargne, et le fait de l'absence d'épargne ne nous permet pas d'investir. D'accord ? Et quand on est pauvre, on ne peut pas épargner. Donc, l'ouverture au flux extérieur de financement, que ce soit idéaux ou capitaux financiers, est certainement favorable à l'épargne et donc aux pays en voie de développement. autre fait positif, lien positif entre, théoriquement entre ouverture et croissance, c'est que la croissance, la concurrence internationale pousse à être plus performant et donc à améliorer la productivité totale, à être des facteurs. Et dernier truc, l'ouverture commerciale permet l'accès à de nouvelles technologies, et c'est ces nouvelles technologies, et la disponibilité d'un plus grand nombre de biens qui permet de croître plus vite. Cependant, ces liens théoriques là, aucun de ces bénéfices n'est garanti, parce que tout dépend des contextes. Dans le cas où l'ouverture commerciale pousse un pays à se spécialiser dans des activités peu dynamiques, comme par exemple les activités à basse intensité technologique, comme l'extraction de produits primaires miniers ou produits agricoles, je ne vois pas en quoi l'ouverture permettrait une amélioration de la productivité des facteurs. Bon, là, je saute aussi. Un des arguments aussi qui est souvent évoqué contre, enfin comme des effets pervers de l'ouverture, c'est le fait que ouverture, ça veut dire réduire les droits de douane et donc réduire les revenus fiscaux des États, ce qui a été le cas dans les pays très pauvres. Donc ils ont ouvert largement, ils ont réduit largement leur barrière tarifaire, donc les recettes fiscales ont effectivement diminué et ça peut empêcher le financement d'infrastructures publiques ou de services d'éducation et de santé qui sont nécessaires aussi aux activités. On peut pas. La croissance est la combinaison de multiples facteurs et l'ouverture peut réduire d'autres facteurs porteurs de croissance. Donc en fait, la question du lien entre globalisation et croissance est avant tout une question empirique. Donc il y a beaucoup de... Alors qu'est-ce que c'est empirique ? Donc en fait, c'est les recherches. Comment font les chercheurs ? Ils essayent de trouver une relation. Ils essayent de trouver un impact moyen de la globalisation, alors mesuré de différents trucs, sur la croissance moyenne d'un échantillon de pays. Ce qu'on appelle de l'économétrie en cross-section. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir si, en moyenne, sur la période qu'on a connue, l'ouverture commerciale a ou non augmenté la croissance en contrôlant par d'autres facteurs. Ces travaux, sachez que ces travaux de chercheurs de renommée mondiale et sur lesquels se basaient beaucoup de discours politiques sur les bienfaits de l'ouverture, ces travaux ont été faits dans les années 80-90, ont été très fortement critiqués. Parce qu'il s'avère, pour plein de raisons de statistiques, qu'il s'avère qu'il n'était pas robuste. D'accord ? La preuve scientifique n'était pas faite. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi la preuve scientifique n'était pas faite. Donc du coup, des travaux sont plutôt orientés sur l'analyse historique des pays et sur l'analyse comparée. Du trajectoire de développement de la Chine, de Taïwan versus le Venezuela, voilà. Donc ça c'est... Donc par exemple, un chercheur assez connu mondialement, Denis Roderick, a essayé de comparer. Alors le premier truc qui a été investi, c'est évidemment l'émergence des pays asiatiques. D'où vient cette émergence des pays asiatiques ? Et donc, en fait, on s'est aperçu que la croissance était bien antérieure, elle était avant l'ouverture commerciale. Ok ? Que le démarrage du développement des pays asiatiques n'était pas forcément lié à l'ouverture, puisqu'en fait, il avait lieu avant. Et finalement, il faut que vous sachiez que, finalement, il n'y a pas d'évidence empirique, de preuve crédible d'une relation positive systématique entre les restrictions commerciales. Alors voilà, ça. Donc en fait, c'est la preuve par la négation. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à montrer une relation positive entre ouverture commerciale et croissance. Le seul truc dont on est sûr, c'est que les pays fermés n'ont pas plus de croissance que les autres. Donc c'est en miroir. Ok. Donc c'est quand même tout ça pour ça, on peut se dire, bah ouais, tout ça pour ça. Et je vous dis pas, c'est des tonnes de recherches. Ok. Bon, il en devient pas moins qu'il y a des certitudes, hein, que la plupart des pays qui ont réussi leur entrée dans la globalisation des années 80 et qui ont connu donc de belles performances de croissance et ont mené des stratégies de croissance par l'exportation, c'est quand même vrai, ils sont quand même ouverts, mais combinés à des politiques commerciales non orthodoxes, c'est-à-dire de protection de certains secteurs, d'aide à l'investissement, voilà. Donc c'est des politiques pas entièrement libérales, loin de là. Et en plus, souvent, les politiques de libéralisation commerciale, pour qu'elles réussissent, il faut qu'elles ne soient pas totalement libérales, et en plus qu'elles s'accompagnent de politiques publiques, d'intervention, notamment sur l'éducation, les infrastructures publiques et les équilibres sociaux. Donc tout ce qui est important, enfin, il faut que les politiques, si l'ouverture commerciale est un facteur de croissance, elle ne peut être un facteur de croissance que si elle est menée intelligemment et que si elle s'accompagne d'une levée des contraintes des fondamentaux de la croissance. Ok ? Donc du coup, le lien entre globalisation et croissance, il s'affaiblit vachement. Et s'il y a un lien, le lien est très faible. Donc là... Donc là, je passe au point 4. Pire camarade. Là, je passe au point 4. Donc là, c'est de voir en quoi... J'ai presque fini. De voir en quoi est-ce que l'ouverture commerciale, enfin la globalisation, entraîne des mouvements, agit sur la pauvreté à l'intérieur des pays. Okay ? Donc là, je regarde la liaison entre globalisation et variation relative des rémunérations au sein d'un pays. Donc le modèle standard de commerce international qui essaye d'analyser ça, c'est le modèle HOS. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez vu encore. Si, vous l'avez vu ? Bon, voilà, vous avez tout vu. Donc c'est un modèle théorique. Comme tous les modèles théoriques, modèle théorique, ça simplifie la réalité. Un modèle théorique, ça simplifie la réalité pour mieux comprendre des mécanismes simples. Donc c'est un modèle à... Il existe deux... C'est un modèle mondial, on va dire. Mais le monde est constitué que de deux pays, nord-sud, de deux produits et de deux facteurs de production. On suppose que pour produire les deux produits... Les facteurs de production sont mobiles entre secteurs. C'est-à-dire que moi qui étais agriculteur, donc j'étais spécialisée dans l'agriculture, je n'ai aucun problème pour passer du jour au lendemain à être ouvrier spécialisé en informatique. Hein ? Et de même, le capital qui était nécessaire à la production agricole, il est tout à fait... je peux tout à fait le déplacer, ils sont aussi productifs pour une chaîne d'informatique. Là, vous vous rendez compte quand même des hypothèses un peu simplistes. Ce modèle suppose que tous les pays, les deux pays, ont un accès identique à la technologie, à la même technologie. Donc les deux pays produisent les produits de la même manière. Mais ils peuvent... Alors, ce qui différencie les deux pays, c'est qu'il y en a un qui va être plus riche dans un facteur de production que l'autre. Et c'est ça qui va favoriser les échanges. Et en fait, le canal principal de transmission d'ouverture internationale sur la pauvreté, c'est uniquement les variations de rémunération des facteurs. C'est les écarts de rémunération entre le capital et le travail, ou entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés. Donc ce modèle prévoit que l'ouverture commerciale, ça va baisser la pauvreté dans les pays pauvres, les pays du Sud. Ça va baisser les inégalités. Par contre, ça risque d'augmenter les inégalités au Nord. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que l'ouverture commerciale va entraîner les pays du Sud à produire plus les produits pour lesquels ils ont un avantage comparatif, qui est certainement les pays du Sud sont, disposent plus de main-d'œuvre non qualifiée que les pays du Nord. Donc on se dit, l'ouverture commerciale, ils vont produire plus de produits qui demandent de la main-d'œuvre, cette main-d'œuvre du coup va travailler et son salaire va augmenter, et donc c'est les travailleurs non qualifiés qui composent essentiellement la population pauvre, et donc la population va diminuer. Bon, ce modèle, comme je vous disais, il est assez simple. Et notamment, ses conclusions tombent à l'eau en termes d'évolution de la pauvreté dans les pays pauvres. Si on rajoute un autre facteur de production, des ressources naturelles. Faisons l'hypothèse que, par exemple, les pays pauvres sont, ce qui est souvent le cas, ont des ressources minières importantes, ou du pétrole. Eh bien, si l'ouverture commerciale augmente, les oblige à produire plus de ces ressources minières pour lesquelles ils ont un avantage par rapport au Japon ou la France, les pauvres n'ont pas accès à ce travail, à cette ressource. Ce n'est pas eux qui sont propriétaires de cette ressource. C'est souvent une ressource publique. Et c'est souvent, les techniques de production sont très intensives en capital. Demandent du travail qualifié, demandent des grosses machines, mais demandent pas du tout de main-d'œuvre. Enfin, faiblement de la main-d'œuvre. Donc du coup, l'impact sur la pauvreté de ce schéma théorique, il tombe à l'eau. Un autre exemple, si par hasard, les ressources naturelles sont les produits agricoles. Là, vous pouvez vous dire que majoritairement, les pauvres sont des agriculteurs. Et donc, si l'ouverture commerciale favorise la production de produits agricoles, en le rente, par exemple le café, le cacao, le coton, et si les agriculteurs disposent de la terre, hein, si, ce qui est le cas en Afrique, les Africains, enfin, la répartition de la terre n'est pas inégalement répartie comme en Amérique latine, ils peuvent bénéficier de l'ouverture. Donc là, on se dit super, voilà, même s'ils spécialisent dans des activités faiblement intensives en technique, a priori, l'ouverture peut faire diminuer la pauvreté. Mais c'est à condition que cette variation du prix, parce que l'ouverture commerciale va augmenter la demande de produits agricoles dans le monde, et donc ça va faire augmenter le prix. Pour que les pauvres bénéficient de cette variation relative des prix, de cette augmentation des prix, il faut qu'il n'y ait pas de barrière à la transmission de cette variation des prix à la frontière jusqu'à eux. Et c'est un des gros problèmes des pays, notamment africains, c'est que souvent il y a un prélèvement de la part d'une classe moyenne intermédiaire, cette variation du prix, des intermédiaires commerciaux. Souvent les États ont prélevé cette taxe. Au départ c'était à bon escient, mais après moins. Et souvent il y a un problème de coût de transport. Hein. Les pauvres ont souvent du mal à acheminer leurs produits. Bon, je laisse tomber ça. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle standard de commerce international, ces hypothèses qui en fait ne se vérifient pas, hein, non, empiriquement, tient essentiellement au fait que si on suppose que la globalisation se manifeste par un plus grand accès aux techniques nouvelles, c'est ça qui se passe en fait actuellement, la globalisation c'est en fait l'arrivée de techniques de communication, d'information, de technologies d'ordinateur, etc. Si c'est ça et si c'est pas l'ouverture commerciale, alors là on peut craindre, ça va demander l'accès des pays pauvres à ces techniques. Ça augmente la demande de travailleurs qualifiés et pas de travailleurs non qualifiés. Et en fait, c'est ce qu'on observe. Bon, je laisse tout ça. Parce que... Donc, ce qu'on a observé, c'est que la libération commerciale n'a pas favorisé systématiquement la main-d'œuvre non qualifiée. Ça a été le cas notamment en Amérique latine. Et donc, du coup, l'ouverture commerciale des pays d'Amérique latine s'est accompagnée d'une augmentation de la pauvreté et surtout d'une augmentation des inégalités, des écarts de salaire, qui s'explique parce qu'en fait, les salaires des travailleurs qualifiés ont augmenté. Et en fait, au départ, tout le monde a été surpris parce qu'on pensait, ça vient de plusieurs phénomènes, mais un des phénomènes importants, c'est qu'on pensait que les pays d'Amérique latine avaient un avantage comparatif dans le travail non qualifié, par exemple le Mexique. Et en fait, ce n'est pas le cas. Parce que relativement à la Chine, ils sont plus compétitifs en travailleurs qualifiés. Donc l'arrivée de la Chine, qui elle a un avantage comparatif aux travailleurs non qualifiés, est en partie responsable du fait qu'en Amérique latine, la libération commerciale ne s'est pas accompagnée d'une augmentation des revenus des travailleurs non qualifiés. J'ai la conclusion. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les effets distributifs de l'ouverture commerciale ne bénéficient pas toujours aux pauvres, comme le modèle standard pourrait s'y attendre. Cela dépend donc du type d'ouverture, hein, si c'est une baisse des prix ou de l'afflux de progrès technique, et surtout de la spécialisation des pays. Et quelque chose qui est très important, de la capacité des pauvres à s'ajuster à ce nouvel environnement. Hein, parce qu'être pauvre, comme on l'a vu, c'est pas avoir les moyens d'investir, d'accéder au crédit, de s'éduquer, etc. Et donc tout dépend, les effets bénéfiques distributifs d'ouverture dépendent des politiques d'accompagnement. Donc finalement, quel est le lien de causalité entre globalisation et pauvreté interne au pays? Il n'est pas clair. Voilà, on fait encore des recherches pour dire que ce n'est pas évident. Parce qu'il est fort possible. Donc d'abord, les présupposés théoriques peuvent aller dans le sens opposé. Mais bon, si on prend le cas, par exemple, de pays où il y a eu une baisse de la pauvreté avec augmentation de la croissance et ouverture commerciale, comme la Chine. Là, on se dit, c'est bon, c'est l'ouverture commerciale qui a fait que la Chine est en train de s'en sortir. En fait, il y a des chercheurs, notamment Ravaillon, qui s'interrogent et qui disent qu'en fait, il est possible que concomitamment à aux politiques de libéralisation commerciale, il y a eu d'autres réformes et qui ont eu aussi un impact sur la réduction de la pauvreté. Ces réformes peuvent être, alors en Chine, ça a été une réforme de l'accès à la terre qui pourrait expliquer l'essentiel de la réduction de la pauvreté et non pas l'ouverture commerciale. En Amérique latine, alors là, les évolutions inverses, c'est-à-dire qu'on a eu une augmentation des inégalités et une légère augmentation de la pauvreté. Ça pourrait s'expliquer pas tant par les méfaits de l'ouverture, parce qu'en Amérique latine, encore une fois, l'ouverture commerciale, elle s'est faite en même temps d'un désengagement de l'État, d'une libéralisation très forte des services publics, une réduction des transferts aux ménages, etc. D'une augmentation du coût des accès à l'éducation et à la santé. Donc, il pourrait expliquer cette augmentation des inégalités et cette non-baisse de la pauvreté. Les travaux empiriques montrent que la politique commerciale n'est pas le plus important instrument de réduction de la pauvreté. Ok ? Interne au pays. Ce n'est pas grâce à l'ouverture commerciale que la réduction de la pauvreté va avoir lieu. C'est un des éléments, mais qui n'est certainement pas l'élément essentiel, ou s'il doit agir positivement, il doit être accompagné de politiques autres. Donc en fait, le canal principal de réduction de la pauvreté, ça serait certainement la croissance macro. Alors. Et donc en fait, ça serait cette flèche-là. Hein? Donc en quoi la croissance macro agit sur la pauvreté individuelle? Donc le débat actuel, pour les pays pauvres, pour les pays d'Asie comme l'Inde ou en Afrique, c'est on retombe dans une problématique de croissance. Hein, c'est trouver les moteurs de la croissance, sachant que ce n'est pas uniquement l'ouverture qui permettra de favoriser la croissance. Et un des gros trucs, c'est faciliter les canaux de transmission de la croissance vers les plus pauvres, afin d'éviter des trappes à pauvreté. Et ça, ça passe notamment par une lutte des inégalités et par un meilleur accès à l'éducation, à la santé et un accès au marché, que ce soit des produits ou du crédit. Et donc, ce qui est important dans ce débat sur globalisation, que je ne vous ai pas vraiment présenté, j'en ai parlé, mais c'est le canal de transmission par les inégalités. Inégalité qui joue beaucoup sur la croissance. Je m'arrête. Merci.